Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 5 octobre 2017. Monique Kiroak au micro. Avec moi en studio, Marie Lalande.
Bonjour.
Bonjour Marie. Et Yvan Deslauriers.
Bonjour.
Bonjour. Et n'oublions pas Mathieu quand même derrière sa console, en contrôle de la musique. Alors, chers collaborateurs, je vous invite à nous présenter les articles que vous lirez aujourd'hui. Alors, on pourra commencer par Yvan, qui s'occupe surtout de sport et de bien-être. Et,
hein, c'est oui, ça? Tout à fait. Alors, je vous parle justement de l'activité physique et du bien-être. Tiens, je vais parler d'une personne qui est amoureuse du sport dans tous les sens du terme amoureux. Et dans le deuxième cas, je vous parle d'une aventure. Si on cherche des fois des textes avec des belles phrases, là, écoutez celle-là parce qu'il y a vraiment des belles phrases. C'est une aventure qui pourrait avoir été perçue comme un échec, puis peut-être pas.
Ah, donc vous piquez notre curiosité sportive.
C'est le but de la chose.
Et Marie?
Moi, je vous parle d'intimidation. Dans les deux interventions, je vous parle d'intimidation. C'est actuellement la semaine contre l'intimidation et la violence à l'école. Alors, j'ai trouvé un article qui nous explique ce que c'est et comment faire comme parents.
Ah!
Pour reconnaître et intervenir, réagir adéquatement.
On vous écoutera certainement très attentivement. On se rappelle que Marie traite de la famille, de l'éducation, donc les deux réconciliés dans un seul article qui sera en deux parties. Mm-hmm. De mon côté, alors, les résultats de recherche scientifique toujours. Alors, un premier article où on se demande si l'attachement amoureux est un phénomène hautement irrationnel. Selon les chercheurs, il pourrait dépendre du centre du raisonnement et de la décision. Oh. Ça enlève un petit peu de...
Oui,
de...
c'est un peu plate, ça.
C'est un peu plate, mais
de
ça...
De spontanéité.
Bon, ben, c'est ça, mais je vais le lire quand même. Et puis, le second article s'intéresse à une recherche, bien sûr, de l'Université de Montréal, en collaboration avec la Société de transport de Montréal, en regard de ces chauffeurs d'autobus et de la violence qu'ils peuvent subir. Mm. Là. Alors, Yvan, allons-y pour le premier article sur les amoureux du sport.
Oui, c'est ça. Alors, c'était dans la presse du 13 septembre, sous la plume sous le clavier maintenant, d'Evelyne Audet. Et c'est une série que j'utilise de temps à autre. Puis ça nous parle de gens comme nous trois, puis de leur expérience par rapport à l'activité physique. Je vous parle aujourd'hui de Caroline Théoret, qui a 27 ans, qui est coordonnatrice administration et gestion pour l'entreprise familiale. Elle est en couple avec trois enfants, Liliane qui a 3 ans, et les jumeaux Hubert et Rosalie, 2 ans. À quoi ressemble une semaine habituelle d'entraînement dans sa vie? Avec 3 enfants, m'entraîner le matin ou le soir est plus difficile. Alors, je le fais à l'heure du midi, 2 fois par semaine, les lundis et jeudis. Puis là, on va faire quelque chose que moi, je ne ferais pas. Il s'agit d'un entraînement de type bootcamp.
Oh, ça, c'est intense.
Oui, oui, qui mélange le cardio et la musculation. Elle ajoute à cela une séance en piscine le mardi soir durant laquelle elle fait des longueurs. Et à sa 4e séance par semaine, elle le fait avec son conjoint. Il y a quelques mois, ils pratiquaient la boxe ensemble. Cet été, ils ont fait de la course à pied. Cet automne, leur objectif, c'est de découvrir de nouveaux endroits et types d'entraînement. Donc, ils vont se promener d'un gym à l'autre et essayer différentes activités. Par exemple, au lieu de faire de la boxe pendant 10 semaines, ils vont faire du yoga une semaine, du vélo la semaine suivante, de l'escalade ensuite, etc. Mmh. Elle dit que s'entraîner en couple nécessite de la gestion avec 3 enfants. C'est une chose à laquelle est-ce que vous tenez absolument à faire ça? Nous, on avait ma mère qui venait garder pour qu'on aille à la piscine. Être en forme, c'est un beau défi, mais faire revivre la flamme d'un couple en est un tout aussi. C'est tellement important de se prendre au moins une heure ensemble par semaine. Nous, l'entraînement à deux, on le fait principalement pour pouvoir se retrouver. On pourrait aller souper au restaurant ou faire une sortie au cinéma, mais nous, on a choisi de s'entraîner. Premièrement, parce que j'ai personnellement des objectifs à remplir, mais aussi parce que l'entraînement nous apporte beaucoup de complicité. Par exemple, à la boxe, quand il fallait se frapper dans les gants, on a beaucoup ri. J'espère que c'est juste dans les gants, parce que si ça avait été ailleurs, il y aurait peut-être moins ri. Un certain esprit compétitif s'est développé et on revenait de nos séances d'entraînement plus amoureux et complices que jamais. C'est très facile avec trois enfants de tomber dans la routine et de perdre le couple de vue. Donc, ce moment est primordial pour nous. Puis là, Madame Audet a demandé quels sont les objectifs personnels dont elle faisait référence tantôt. Mm-hmm. Son objectif principal, elle ne le cache pas, c'est la perte de poids. Avant son mariage, elle avait perdu 93 livres.
Ah, mon Dieu!
Et elle avait le corps dont elle avait toujours rêvé et elle en était très fière. Après les naissances rapprochées de ses trois enfants, elle a repris 80 livres. Elle a donc l'objectif de retrouver son poids santé le plus vite possible. Pour l'image, oui, mais aussi pour donner les bonnes valeurs à ses enfants et leur inculquer de bonnes habitudes de vie. Elle veut qu'ils aient une maman en forme. Puis là, on s'est demandé, êtes-vous sur la bonne voie pour l'atteinte de votre objectif? Elle a commencé en janvier dernier et elle est présentement à mi-chemin. Pour que les gens puissent suivre sa progression, elle a décidé de mettre sur pied une page Facebook qu'elle a appelée « Maman Endorphine ».
Oh.
De cette façon, ceux qui ont le même objectif qu'elle peuvent se motiver en voyant son parcours et cela peut aussi donner envie à d'autres personnes d'en faire autant. Okay. Elle essaie d'inspirer le plus de gens possible, particulièrement d'autres parents qui ont peu d'espoir de réussir en raison de leur horaire chargé avec les enfants. Puisque des centaines de personnes suivent son parcours, cela l'oblige aussi à ne pas les décevoir. Elle reçoit plusieurs messages de gens qui se disent inspirés par ses démarches, mais en réalité, ce sont eux qui l'inspirent, elle aussi. Au final, tout le monde y gagne. Est-ce que votre objectif d'inculquer de saines habitudes de vie à votre famille semble porter ses fruits? Tout à fait. Mes enfants comprennent l'importance de bouger et de faire du sport. Dès leur naissance, on a commencé à faire du plein air avec eux. On a fait beaucoup de randonnées avec les porte-bébés. Ça, j'ai fait ça beaucoup. D'ailleurs, à ce jour, on tente toujours de faire au moins une sortie active en famille la fin de semaine. Récemment, sa fille Liliane, qui a 3 ans, voulait tellement venir courir avec moi que je l'ai amenée faire une course de 1,8 km. Puis quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben oui, quand tu pars avec un enfant de 3 ans, tu pars pour 1,8 km, tu sais, c'est... Moi, je ferais le tour du bloc puis s'arrêter tout, là, mais...
Oui, oui, oui.
Elle a part 1,8 km. Elle a adoré ça et son éducatrice a dit qu'elle en avait parlé toute la journée le lendemain à la garderie.
On imagine bien. C'est formidable.
Pour ce qui est de son conjoint, il est extrêmement conciliant. Il sait à quel point c'est important pour moi, alors il met les bouchées doubles pour s'occuper des enfants quand je pars m'entraîner. Dans la vie, on peut réussir à faire ce qu'on veut, mais c'est important d'avoir un bon entourage pour nous aider à y parvenir. Et je réalise que j'ai cette chance. Alors, c'était sous la plume de Evelyne Audet dans la presse du 13 septembre, la petite histoire de Caroline Théoret, 27 ans, qui est amoureuse du sport.
C'est formidable.
Oui, n'est-ce pas?
Oui. Alors, c'est à mon tour de poursuivre sur cette note dynamique. Alors, un article pour Science et Vie du mois d'août 2017, un article d'Olympe Delmas intitulé « Les secrets de l'amour enfin révélés ». Alors, imaginez-vous allongé sur l'herbe dans les bras de votre moitié. Vous vous sentez merveilleusement bien, vous êtes amoureux. Mais que se cache-t-il derrière ce sourire béat? Des neuroscientifiques viennent de proposer une réponse profonde, convaincante et prosaïque. Peut-être plate, comme
terre
tu disais tout à l'heure, Yva. Lorsque vous êtes blotti contre l'être aimé, votre cortex préfrontal impliqué dans le raisonnement et la maîtrise de la décision prend le contrôle et stimule votre noyau accumbens, siège du plaisir et de l'addiction. Dit autrement, la clé de l'attachement amoureux résiderait dans la prise en main du centre affectif, notre noyau accumbens, par le centre exécutif. Le coup de foudre aurait gravé dans votre cerveau un circuit neuronal entre ces structures qui vous ferait ressentir la présence de l'autre comme une récompense. Vous me direz, étrange vision de l'amour, un sentiment que l'on aurait pu croire provoqué par un véritable emballement du plaisir, mais non. Tout passerait au contraire sous le contrôle du centre des fonctions cognitives dites supérieures. Alors, l'amour, c'est quand la raison prend la main sur l'émotion? Cela a, en tout cas, été clairement observé chez les campagnols des prairies, un petit rongeur. L'équipe de neurobiologistes de l'Université Emory à Atlanta, aux États-Unis, a mesuré l'activité électrique du cerveau de ces petits rongeurs in vivo et en temps réel. Ils ont constaté que lors des interactions amoureuses, la communication entre le cortex préfrontal et le noyau accumbens s'intensifie. C'est la première fois que l'on observe précisément comment l'un affecte l'autre. On sait depuis longtemps que la présence du partenaire, son aspect, l'odeur, le timbre de voix, libère dans le cerveau des neurotransmetteurs qui stimulent ces deux régions. Mais nous ne savions pas comment ces structures étaient dynamiquement activées pendant les interactions amoureuses naturelles. Pour confirmer cette observation, les scientifiques se sont improvisés maîtres de l'amour. Ils ont inséré des gènes sensibles à la lumière dans les neurones du cortex préfrontal d'une femelle campagnole, puis l'ont placé dans une cage en présence d'un mâle inconnu. Sans contact physique possible. Ensuite, ils ont éclairé les gènes avec une fibre optique. Ils ont activé les neurones du cortex préfrontal. Ils ont ensuite placé la femelle parmi différents mâles, dont celui avec laquelle elle a cohabité pendant l'expérience. Résultat, les 12 femelles testées, des 12 femelles testées, 10 d'entre elles ont préféré le mâle choisi par les scientifiques. Cela montre que les signaux envoyés par le cortex préfrontal correspondent bien au message « Ce mâle est une récompense ». C'est donc bien un coup de foudre qui a été artificiellement provoqué, et celui-ci a gravé dans le cerveau un véritable attachement amoureux. Un amour sur commande, en quelque sorte. En va-t-il de même pour l'humain? Vous êtes curieux,
n'est-ce
pas?
Bonne question.
Ces rongeurs n'ont pas un cortex aussi complexe que le nôtre, sans compter que les facteurs influençant la création d'un lien amoureux sont moins divers que chez nous, et la dimension psychologique est quand même importante chez l'être humain, vous en conviendrez. Ces travaux permettent de dresser un portrait sommaire mais crédible du circuit d'activation des sources cérébrales gouvernant le sentiment amoureux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ouvrent des perspectives thérapeutiques originales, en particulier contre l'autisme. Surtout, ils invitent aussi à se poser des questions. Par exemple, quelles sont les meilleures conditions pour provoquer un coup de foudre? Plus la cohabitation est longue et intense, plus l'attachement s'avère possible, selon un chercheur. Alors, on peut se poser la question, peut-on vraiment tomber amoureux par Internet?
Oui.
Non? Le chercheur Young
C'est une excellente question.
Pas vraiment, parce que lui, M. Young, est persuadé de l'importance du contact physique dans le coup de foudre. Il souligne aussi l'importance des stimuli visuels, mais aussi olfactifs, tactiles et auditifs, envoyés par notre partenaire qui active par la chimie les mécanismes amoureux du cerveau. Plus le contrôle exercé par le cortex préfrontal sur le noyau accumbens est fort, plus l'individu se lie rapidement avec son partenaire. Cela pourrait expliquer pourquoi certains humains tombent amoureux plus rapidement que d'autres. Alors voilà, on connaît peut-être enfin le secret de l'attachement amoureux, l'affectif qui est sous le contrôle de l'exécutif. Mais je sens que Yvan n'est pas tout à fait en harmonie avec ça. C'était un article de Madame Olympe Delmas pour la revue Science et Vie d'août 2017.
Quand même.
Quand même.
Un autre matin, il y avait la lumière que filtre la fumée des cheminées en hiver. Il y avait sur la table et nos fruits et nos cœurs, puis le parfum du café qui embrassait les fleurs. Viennent l'amour et le silence et les fanfares, viennent le doute et le bonheur qu'il prépare. Viennent l'amour, viennent le doute. La cohue quotidienne et puis le temps qui passe, tes yeux rieurs qui se posent sur ma délicatesse. Sous tes ombrages j'aimais à me perdre un moment, tu étais tout ce que je suis tendre en dedans. Viennent l'amour et le silence et les fanfares, viennent le doute et le bonheur qu'il prépare. Viennent l'amour, viennent le doute. Perdu, cet ouragan est en fait qu'une brise ténue. Si la poussière des jours a besoin d'un peu d'eau, j'offrirai quelques larmes pour réveiller ta peau. Viennent l'amour et le silence et les fanfares, viennent le doute et le bonheur qu'il prépare. Viennent l'amour et le silence et les fanfares, viennent le doute et le bonheur qu'il prépare. Vienne l'amour, vienne le doute.
Fred Pellerin et sa chanson « Vienne l'amour ».
Merci Mathieu pour ce lien vraiment pertinent. Alors maintenant, Marie, cet article sur l'intimidation,
oui,
c'est pas nécessairement rigolo,
c'est pas joyeux,
mais au
c'est...
moins vous nous donnez des façons de réagir.
Oui, oui. Alors, c'est un texte utile et nécessaire en ce qui me concerne. Donc, l'intimidation, comment la reconnaître et réagir? Puis je vous l'ai dit, c'est la semaine contre l'intimidation et la violence à l'école. Donc, pour l'occasion, je vous lis ce texte qui a été écrit par l'équipe de Naître et grandir. Et ça a été écrit en collaboration avec Mme Ariane Leroux-Boudreau, qui est doctorante en psychologie et intervenante en milieu scolaire. Et ça a été publié sur le site naître-et-grandir.com en janvier 2016. Donc, ça date déjà, mais c'est tout à fait pertinent, encore une fois, cette année. L'intimidation, c'est lorsqu'une personne essaie d'en dominer une autre de façon répétée, par des moqueries, des gestes violents ou le rejet. On ne parle pas ici d'une simple dispute entre amis dans la cour d'école, mais d'une relation de pouvoir qui blesse ou écrase l'autre et qui dure pendant un certain temps. Souvent, l'intimidation a lieu même en présence de témoins. D'ailleurs, plus il y a de témoins, plus l'intimidateur sent qu'il a du pouvoir. Ouais. Les différentes formes d'intimidation, donc de quoi on parle, l'intimidation peut être physique ou verbale. Les gestes et comportements décrits ici doivent être répétés et s'étendre sur une certaine période de temps pour conclure à de l'intimidation. Il y a l'intimidation physique. Donc, c'est frapper quelqu'un, le faire tomber, le pousser, lui tirer les cheveux, briser ses objets personnels ou lui faire des attouchements non désirés. Et il y a l'intimidation verbale, insulter quelqu'un, le menacer, lui faire des remarques désagréables ou l'humilier. L'intimidation, elle peut être directe ou indirecte. La plus fréquente chez les enfants, c'est l'intimidation directe et c'est la plus facile à observer. Dans ce cas, les gestes nuisibles sont adressés directement à l'enfant, que ce soit des moqueries, des coups, du bris de matériel, etc. Mmh. L'intimidation indirecte passe plus souvent inaperçue. En effet, il est plus difficile pour les adultes d'être témoins de fausses rumeurs, d'attaques à la réputation, d'exclusion, etc. Les deux formes d'intimidation sont aussi dommageables l'une que l'autre pour l'enfant. Il y a des conséquences à ça. À court terme, l'intimidation a pour conséquence de nuire à l'estime de soi d'un enfant. Donc, c'est important de ne pas prendre une telle situation à la légère, de détecter les premiers signes d'intimidation et d'intervenir correctement. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Il est possible que votre enfant vive de l'intimidation si, et là donc il y a une série de symptômes qu'on peut remarquer, si son intérêt et sa motivation pour l'école diminuent grandement. S'il ne veut plus aller à l'école, s'il se replie sur lui-même, s'il devient plus secret, s'il s'isole, s'il vous dit souvent qu'il ne se sent pas bien, qu'il est malade, si ses notes chutent, s'il dort mal, s'il revient à la maison avec des vêtements sales ou des blessures, s'il vit de l'anxiété, de la peur, de la méfiance, s'il ne veut pas vous parler de ce qu'il fait à l'école ou de ses pairs, s'il recherche la présence des adultes, s'il fait des détours pour ne pas prendre le chemin habituel, s'il veut arriver très tôt ou très tard à l'école pour ne pas croiser les élèves dans la cour, et s'il dit perdre ou se faire voler des objets personnels comme son lunch, ses collations, sa tuque, ses cartes de jeu, etc. Si c'est le cas, vérifiez si votre enfant n'est pas victime de taxage dans le dernier cas. Comment on aide un enfant qui vit de l'intimidation? Et c'est ce qui nous intéresse comme parents. Si vous soupçonnez que votre enfant est victime d'intimidation, la première chose à faire, c'est d'essayer d'en savoir plus, sans trop insister. Ça, c'est la difficulté. Posez des questions, restez calme et attentif. Laissez votre enfant s'exprimer sans l'interrompre. Ne le jugez pas, ne lui dites pas ce qu'il aurait dû faire ou non. Évaluez la situation avec lui. Est-ce qu'il peut modifier la situation en exprimant clairement ses limites? Est-ce qu'il a des alliés? Jusqu'où va l'intimidation subie? Surtout, ne l'incitez pas à la violence. Aidez-le à conserver une bonne estime de lui-même. Incitez-le à s'affirmer. Discutez avec votre enfant pour tenter de bien comprendre ce qui se passe. Amenez-le à nommer ce qu'il ressent. Misez sur ses forces. Aidez votre enfant en lui donnant des trucs pour s'affirmer, par exemple se tenir droit, parler sans hésitation, avoir la tête haute. N'hésitez pas à faire des jeux de rôle avec lui pour qu'on se pratique. Encouragez-le à se faire des nouveaux amis, au besoin consulter un psychologue ou un psychoéducateur qui pourra travailler avec lui ses habiletés sociales. Si votre enfant ne vous parle pas, et c'est souvent le cas, si vous soupçonnez qu'il ne vous dit pas tout, informez-vous auprès de son enseignant, son enseignante, au besoin à la direction. Ne tentez pas de régler par vous-même la situation directement avec l'enfant intimidateur ou son parent. Privilégiez la présence d'un médiateur, comme la direction. Et si la direction ne répond pas ou ne réagit pas d'une façon qui vous satisfait, avisez la commission scolaire de la situation. Si cette démarche ne vous satisfait pas non plus, adressez-vous au protecteur de l'élève de la commission scolaire de votre enfant. Restez à l'affût. demandez un suivi pour vous assurer que le problème se règle. Et finalement, si le problème persiste et si vous sentez que votre enfant en est très, très affecté, demandez l'aide d'un psychologue ou d'un psychoéducateur de l'école, du CLSC ou d'un organisme près de chez vous. Donc, en seconde partie, la suite de ce texte sur, avouons-le, un sujet difficile, comment réagir si notre enfant est témoin d'intimidation ou s'il fait lui-même de l'intimidation. Voilà.
Merci beaucoup, Marie. Une petite brève,
oui,
Yvan?
Oui, c'est le temps de la météo urbaine. D'ailleurs, ceux qui ont syntonisé Radio-Canada ce matin en se levant, l'émission de Gravel le matin était
au marché Jean Talon
et ils ont parlé de la dame qui fait la météo urbaine. Alors, je vous livre la météo urbaine pour aujourd'hui qui s'intitule « Du temps et de lumière ». Impossible de l'ignorer, elle est là, au tournant du corridor, suspendue comme une boule de Noël au milieu de la fenêtre. Elle est là, faisant ombrage aux lampadaires de la rue, trompant l'œil endormi. Elle est là, dans l'état d'âme des gens qui ne savent trop pourquoi leur humeur tangue tant. Elle est là aussi pour encourager l'astre solaire à se lever en habit estival. Elle est là, impossible de la manquer, pleine, ronde, lune d'automne. Les moineaux s'ébouriffent les plumes, se font accroire qu'il fera froid, jacassent, perdent la notion du temps. Les marchands s'installent, ça sent la terre nourricière, ça sent les conserves, ça sent bon dans notre cerveau.
Alors, ça sent l'automne, et je vous donne la définition de Bénédicte, 5 ans et demi de l'automne, période où les arbres laissent tomber leurs feuilles parce qu'ils sont fatigués de les avoir portées depuis le début du printemps.
C'est vraiment charmant. Alors, Voix de Service Magazine se poursuit après la pause. Et après la chanson, Mathieu, vous nous offrez quoi comme chanson?
Aucune idée encore.
Aucune idée encore, excusez-moi.
Ah, ça, c'est très bon.
Alors, avec nos collaborateurs Marie et Yvan, on vous revient donc après cette pause.
Best.
Patrice Michaud et sa chanson « M'espères-tu ».
Alors Marie, on poursuit avec la deuxième partie de l'article sur l'intimidation.
Oui, l'intimidation, comment la reconnaître et réagir. Toujours ce texte de l'équipe de Naître et Grandir et de Ariane Leroux-Boudreau, publié sur le site de Naître et Grandir, je l'ai dit, .com. J'apporte une précision. Qu'est-ce que dit la loi sur l'intimidation? La loi sur l'instruction publique, la LIP, oblige les commissions scolaires à mettre sur pied un plan de prévention et d'intervention en cas de violence et d'intimidation. Ce plan doit être remis aux parents. Le directeur d'une école ou un membre de la direction est responsable de relever les plaintes dans des cas d'intimidation ou de violence. Et chaque commission scolaire a maintenant son protecteur de l'élève qui assure que les droits de chacun sont respectés, un peu comme le fait le protecteur du citoyen. Alors, si votre enfant est témoin d'intimidation, s'il vous confie qu'il a vu quelqu'un d'autre se faire harceler ou intimider, demandez-lui de vous raconter les détails de ce qui s'est passé. Assurez-vous qu'il était bien un témoin et non la victime. Dites-lui aussi qu'il a bien fait de vous en parler et rappelez-lui qu'il ne faut pas rester silencieux devant un geste d'intimidation. Demandez-lui s'il veut en parler à son enseignant, son enseignante, en votre compagnie. Il est aussi possible, et c'est très délicat, mais c'est possible que votre enfant exerce lui-même de l'intimidation sur un autre enfant. Le réflexe d'un parent peut être de nier la situation. Pas mon enfant, c'est le premier réflexe. Pourtant, vous avez un rôle à jouer et vous pouvez aider votre enfant. Plusieurs raisons peuvent pousser un enfant à intimider quelqu'un d'autre. Plus vite vous ferez face au problème, plus il sera facile de le régler. Il faut toutefois faire la différence entre un meneur et un intimidateur. Diriger, ça n'est pas intimider. Certains enfants ont tendance à faire preuve de plus d'autorité que d'autres et à prendre la tête d'un duo ou d'un groupe pour mener le jeu ou pour organiser les choses à leur façon. Ce sont des meneurs naturels, même s'il faut rester vigilant et leur apprendre à rester à l'écoute des autres et à respecter leurs camarades. Il n'est pas dit que ces enfants deviendront intimidateurs pour autant. On parle d'intimidation lorsqu'un enfant a tendance à vouloir dominer les autres à tout prix, sans respect pour leurs envies ou leurs besoins. Certains signes dans son comportement peuvent indiquer que votre enfant pourrait commettre des gestes d'intimidation. Par exemple, il a été démontré que les enfants qui défient l'autorité, qui sont incapables d'admettre leurs torts, qui utilisent la colère pour obtenir ce qu'ils désirent, qui aiment se battre et qui ont tendance à être manipulateurs sont plus enclins à poser des gestes d'intimidation. Un enfant qui intimide les autres le fait pour différentes raisons. Alors, il y a une liste ici. Il cherche à se valoriser, à bien paraître aux yeux des autres, pour plaire à un groupe, par exemple, pour se sentir intégré. Il peut manquer de confiance en lui et il ne sait pas comment s'affirmer autrement. Soit il a du mal à exprimer sa colère et ses frustrations, ou bien il n'aime pas avouer ses erreurs et se montrer vulnérable, ou encore il a un tempérament autoritaire et manque d'empathie pour les autres. Ou ça pourrait être parce qu'il perçoit ses agissements comme de l'autodéfense. Il préfère attaquer avant d'être attaqué, ou il a déjà vécu lui-même de l'intimidation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre enfant lorsqu'il est lui-même intimidateur? Alors, si vous apprenez que votre enfant exerce de l'intimidation, la première chose à faire, c'est d'en discuter calmement avec lui. C'est sûrement la chose la plus difficile.
Oui.
Rester calme. Donc, on l'écoute, on le laisse exprimer son point de vue. Ensuite, on lui indique clairement qu'on n'accepte pas ce genre de comportement. Il peut être approprié de lui donner une conséquence reliée au geste d'intimidation qu'il a posé, comme présenter ses excuses à l'autre ou remplacer un objet qu'il a brisé. Expliquez-lui les conséquences qu'ont ces gestes sur lui et sur les autres. Il est important qu'il comprenne que vous prenez la situation très au sérieux et que son comportement doit changer. Ainsi, il doit apprendre à respecter les autres, à obéir aux règles et à gérer sa colère. Vous pourrez ensuite décider des mesures les plus appropriées pour l'aider. Soit vous pourriez, par exemple, passer plus de temps avec votre enfant et observer son attitude pour mieux lui faire remarquer son comportement et le corriger au besoin. Ou bien insister pour qu'il respecte les autres et accepte les gens différents de lui. Trouver avec lui des façons pour qu'il exprime mieux sa colère et ses frustrations. Travailler avec lui sur sa confiance et sa façon d'approcher les autres. Consulter au besoin un psychologue ou un psychoéducateur pour aider votre enfant à mieux gérer ses émotions et vous outiller vous aussi pour faire face à cette situation. Parler avec son enseignant ou la direction de l'école pour trouver une solution ensemble, parce que s'il arrive qu'on apprend que notre enfant intimide quelqu'un d'autre, c'est en général parce que l'école nous a informés de cette situation-là. Mm-hmm. Donc, il y a un plan, quelque chose qui est mis en place. Alors voilà, c'est un sujet difficile, je l'ai dit tantôt. Pour moi, c'est un texte essentiel et utile qu'on peut trouver sur le site d'êtreetgrandir.com. Mm.
Merci, Marie. Alors, Yvan, c'est à vous de nous raconter l'histoire d'une personne qui voulait être la plus jeune à traverser l'Atlantique à la rame, et ce, sous la supervision de Mylène Paquette, qui, en 2013, a réussi cet exploit.
Exactement. Et elle nous raconte cette situation. Ça s'appelle « Le sel de l'aventure », écrit par Mylène Paquette dans le magazine Espace. Et d'ailleurs, je vous reviens à quelques reprises, c'est pas la première fois que je vous lis des choses de Mylène Paquette. Mm-hmm. Il y a une phrase dans ce texte-là qui m'a beaucoup touché, je vous le dirai à ce moment-là. Donc, je vous lis des extraits de son texte. Son texte est vraiment très long, mm-hmm. mais ça vaut la peine, ceux qui ont la chance, d'aller dans le magazine Espace ou de se le faire lire. L'aventure, c'est l'art de jongler avec les éléments et d'y créer quelque chose d'unique, de propre à soi. Depuis mon grand périple, bon nombre d'aventuriers m'ont contacté pour me demander de les aider dans leurs projets. C'est le cas de mon ami Joseph Gagnon. Il m'a demandé de l'aide de façon si franche et si naturelle que je ne pouvais pas refuser. Quelque chose dans son attitude me disait qu'il allait atteindre son objectif et je n'avais aucun doute sur ses chances de réussir. Joseph voulait non seulement traverser l'océan à la rame, mais il voulait aussi devenir le plus jeune au monde à le faire. Un objectif précis, concret, limpide, qu'il assumait pleinement. Avec sa fougue, sa lumière et sa maturité, il s'est entouré. Il a échafaudé un plan, l'a étalé sur plusieurs années, pour ensuite ne s'en tenir précisément qu'à celui-ci. Autour de lui, sa famille, ses amis, son village de Saint-Jean-Port-Joli, toute sa région était derrière lui pour le soutenir dans cette merveilleuse expérience. Même si le plan est bien ficelé, on doit apporter des ajustements et corriger le tir en cours de route. Dans le cas de Joseph et de son compagnon irlandais, Brian, ils ont dû composer avec les éléments et leurs limites humaines. Comme Brian éprouvait des problèmes de santé, l'équipage d'Evelyn, c'est le nom de leur embarcation, ainsi que l'équipe au sol, ont pris la décision de changer de cap et de faire route sur l'Irlande afin de gagner plus rapidement la terre ferme et donc de passer quelques jours de moins en mer. À l'aube de leur 38e jour à ramer, un record de vitesse était même pressenti. Mais à quelques milles nautiques avant de toucher terre, Joseph s'est réveillé dans l'eau. Bateau renversé.
Oh là là, quel drame!
Douche froide, dans tous les sens du terme. Réveil brutal, déception, horreur, consternation. Sous le choc, les deux rameurs ont mis un certain temps à comprendre ce qui avait bien pu se passer. Toujours attachés à leur embarcation, ils ont tout tenté pour la retourner, mais sans succès. Les deux aventuriers se sont alors pris en main et ils ont décidé d'élaborer un plan pour se sortir de cette fâcheuse position. Tranquillement, l'espoir a repris sa place. 7 heures plus tard, le son d'un hélicoptère déchirant le ciel leur a permis d'entrevoir la lumière. Près de 10 heures après leur chavirage, ils ont finalement été élitreuillés et transportés vers l'hôpital le plus près, laissant leur bateau derrière. À 165 milles nautiques des côtes irlandaises, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un mille nautique, c'est peut-être, ça a l'air d'être pas très loin.
Quand même, 165.
Oui, ouais. Mais considérant tout ce qu'ils avaient fait, il n'en restait pas un grand bout. Joseph a perdu sa belle Evelyne. Mais il n'a pas perdu espoir de la retrouver. Comme tout le monde, je n'aime pas perdre, y compris le mot lui-même. Perdre signifie cesser d'avoir, abandonner, devoir payer. C'est ici tout l'inverse, car je crois que Joseph a gagné. Je suis certaine qu'il a tiré plus d'apprentissage de sa mésaventure qu'il en aurait acquis s'il était arrivé à la rame sur l'autre continent. Parce que je connais Joseph et que je sais qu'il est plus fort que moi, je sais que si cette mauvaise fortune lui arrive à lui, c'est qu'il est assez humble et grand pour se voir l'affronter. Le plus difficile n'est pas d'atteindre un but préétabli, mais plutôt de réagir au changement avec maturité et lucidité. Et en ceci, Joseph me surpasse grandement. Le piège ici serait de parler d'un succès ou d'un échec. Puis là, c'est là la phrase qui m'a frappé. Parce qu'une aventure se construit au quotidien et non lors de sa dernière journée. Parce qu'ils ont réussi là où la plupart d'entre nous avaient échoué. Parce que le sel de l'aventure se trouve dans la richesse acquise par l'expérience qu'elle propose. Joseph et Brian ont gagné. Après avoir survécu à une expérience qu'on ne pouvait dessiner à l'avance. À mon humble avis, ils ont réussi. Félicitations, les hommes.
Wow.
Alors, c'était des extraits d'un texte qui s'appelle « Le sel de l'aventure », écrit par Mylène Paquette dans le magazine Espace, et je vous recommande fortement, chaleureusement, d'aller le lire au complet ou de se le faire lire au complet.
Ah oui.
Après ça une petite recherche, 165 000 représente 305 km.
Ah, 305 km, ouais. Merci Mathieu.
Quand même.
Alors, c'est à mon tour, Monique.
De nous laisser parler d'amour?
Ah ben, à peu près, pourquoi pas. Et cette fois-là, vraiment, le côté affectif sera laissé, se déploiera.
Sera en premier
oui,
plan.
Oui, tout à fait.
Okay.
Alors, ça vient de la salle de presse de U2M Nouvelles du 22 septembre dernier. Et le texte s'intitule « Incident violent ». La Société de transport de Montréal collabore à un projet de recherche pour ses chauffeurs d'autobus. Alors, il y a un lien, je dirais, de parenté avec l'article que Marie a lu sur l'intimidation. Vous allez voir pourquoi. Alors, une recherche menée auprès des chauffeurs d'autobus de la STM met en lumière les conséquences des incidents à caractère violent. Les méfaits dont sont parfois victimes les chauffeurs d'autobus peuvent avoir des conséquences psychologiques de différentes natures qui se manifestent à différents moments après l'incident. C'est ce que conclut une étude qui a été réalisée par une équipe de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal qui fait partie du CIUS, l'est de l'île de Montréal. Je vous dirai tout à la fin de l'article comment se compose ce CIUS et quelle est sa fonction. Et en collaboration avec l'Université de Montréal et bien sûr la Société de transport de Montréal, sous la direction du chercheur et professeur Stéphane Gay. La violence au travail représente un problème dans de nombreux secteurs d'activité, surtout de services, bien sûr, on est en contact avec des personnes, et celui des transports, on le sait, n'y échappe pas, comme le souligne aussi Stéphane Gay, qui est également directeur du Centre d'études sur le trauma et de l'équipe Visage. Je n'ai pas d'explication de ce que veut dire visage, mais en tout cas, on peut parler du visage de la violence dans ce cas-ci. La STM, elle est proactive, on peut souligner cette proactivité en acceptant de collaborer pleinement à ce projet de recherche, alors que beaucoup d'autres organisations auraient refusé parce que ça entache peut-être leur réputation ou on peut imaginer toutes sortes de raisons pour ne pas mettre de l'avant une faiblesse, je le mets entre guillemets. Le professeur de l'École de criminologie et du département de psychiatrie de l'Université de Montréal précise que sur 361 accidents de travail déclarés chaque année par les quelque 3500 chauffeurs de la STM, environ 30% concernent des actes de violence. C'est quand même beaucoup.
C'est presque un tiers.
Donc, pendant un an, Stéphane Guy et son équipe ont suivi 118 chauffeurs de la STM qui ont été victimes ou témoins d'actes de violence dans leur milieu de travail. Donc, même scénario que tu soulignais tout à l'heure, Marie, ceux qui sont victimes et ceux qui sont en présence. Les participants ont rempli des questionnaires et fait des entrevues téléphoniques à des périodes précises, soit après un mois, deux mois, 6 et 12 mois suivant l'incident destiné à mesurer l'évolution de leur santé psychologique et de leurs besoins. Les résultats de l'étude révèlent que les chauffeurs participants ont été victimes de violences physiques. 45% de nos 361 chauffeurs, ils recevaient des coups, par exemple, ou on leur crachait dessus. Entre autres, on n'élabore pas plus sur les violences physiques. Et aussi, bien sûr, de violences verbales, donc 50%, là, menaces, insultes, et je pourrais mettre etc., et toujours de la part de clients. De plus, 60% des répondants semblaient présenter un état de stress aigu, entre parenthèses, là, je pourrais dire ESA, E-S-A, dans les mois suivant l'incident. Également, 18% des participants ont possiblement développé un trouble de stress post-traumatique, comme lorsqu'on va à la guerre, deux mois après l'incident violent. Donc, ça ne se déclenche pas immédiatement après l'incident. Après 12 mois, 6% d'entre eux souffraient toujours d'un trouble de stress post-traumatique. Comme c'est le cas dans la plupart des emplois où les contacts avec des clients sont directs et réguliers, l'équipe de recherche a noté chez les participants que l'état de stress aigu et le trouble de stress post-traumatique ainsi que la détresse psychologique sont liés ensuite à une diminution du sentiment de sécurité de travail et de la confiance en leur capacité à gérer d'autres situations de violence ainsi qu'à une diminution de leur bien-être au travail. Alors, comme les enfants, ils ne veulent peut-être plus aller, relativement, entre autres, à leur santé physique et ou à leurs relations sociales. Les participants se sentent généralement soutenus par leurs collègues tout en décrivant un sentiment d'inquiétude de voir des actes de violence dans leur profession. Malgré les moyens mis en place par la direction de la STM, on a vu des affiches pour venir en aide aux participants. À la suite d'un incident violent, les victimes souhaiteraient que leur prise en charge soit plus complète et adaptée à leur réalité. Ces victimes demandent également que le public soit mieux sensibilisé à la réalité de leur métier. Les chauffeurs d'autobus sont seuls sur la route. Ils servent une large clientèle. Ils sont accusés à tort d'être responsables des retards. C'est pas eux qui mettent les cônes oranges sur les routes. Hein? On ne pourra jamais enrayer complètement la violence vécue par certains chauffeurs. Cependant, on peut poser des questions pour essayer de la prévenir davantage, mais aussi pour mieux gérer la prise en charge des travailleurs victimes, affirme le chercheur Stéphane Guay. Je nous invite à être plus souriants et aimables à l'égard de nos chauffeurs et de nos chauffeurs, parce que c'est toujours vraiment eux qui nous amènent d'un point à l'autre. Un CIUS, c'est un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Celui de l'Est de l'île de Montréal regroupe des hôpitaux, CHSLD et instituts. Le fait qu'il soit affilié, entre autres, à l'Université de Montréal, parce qu'il pourrait être affilié à l'Université McGill aussi, conjugue les missions d'enseignement, d'évaluation et de recherche avec la formation des médecins et professionnels de la santé. Alors, ça crée un lien direct entre les organisations de santé et une institution universitaire.
Mm-hmm.
Alors, vous me mettez devant les yeux la signification de visage,
oui,
qui est violence au travail selon le sexe et le genre.
Oui.
Merci beaucoup.
Alors, j'ai découvert un site où on présente des films d'animation pour expliquer les troubles d'apprentissage.
Mmh.
Donc, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, hyperactivité. 4 films d'animation pour expliquer les troubles d'apprentissage. Leur diffusion peut permettre de sensibiliser le plus grand nombre et de poser des mots sur le ressenti des enfants qui en souffrent. Donc, le site, c'est animationland.fr, animationland.fr. C'est un site français, puis c'est des films chouettes, intéressants à présenter.
Ah. Oui? Je vais y voir, puis après je pourrais faire.
Alors, je vais vous rendre service, mesdames et les messieurs qui écoutent. Je vous donne 8 informations à savoir pour briller en société. Il y a actuellement plus de 2 milliards de vélos en circulation dans le monde, dont le vôtre. Alors voici 8 faits, chiffres et statistiques à révéler pour épater vos amis ou vos partenaires de vélo. Le premier, on peut stationner jusqu'à 15 vélos dans un seul emplacement pour une voiture.
Oh.
Deuxièmement, en 2050, un cycliste sur 2 pédalera sur un vélo à assistance électrique dans le monde.
Mm-hmm.
Troisièmement, un cycliste professionnel roule en moyenne 45 000 km par année, soit 10 fois la distance entre New York et Los Angeles.
Un professionnel?
Oui. Quatrièmement, pas moins de 25 % des trajets à vélo s'effectuent à moins de 2 km de la maison, 50 % à moins de 5 km et 90 % à moins de 15 km. Cinquièmement, pédaler 3 heures ou 30 km par semaine permet d'abaisser considérablement le risque de maladie cardiaque. Sixièmement, l'entretien d'un vélo coûte annuellement 20 fois moins cher que de rouler en voiture.
Mm-hmm.
Septièmement, le dernier cycliste d'une épreuve est surnommé la lanterne rouge en référence au dernier wagon d'un train qui arbore un feu de signalisation de cette couleur. Et huitièmement, 3 raisons pour lesquelles les cyclistes professionnels se rasent les jambes. Ça améliore l'aérodynamisme, il est plus facile de soigner une blessure sur une jambe glabre et il est plus facile de masser un cycliste rasé.
Est-ce qu'on a le temps pour
un dernier mot d'enfant?
Oui.
La lettre W, selon Marine, 6 ans, c'est une lettre qui fait des montagnes russes à l'envers.
Oh, c'est trop joli. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, chers collaborateurs,
merci
du choix de vos articles.
Puis on se donne un rendez-vous pour jeudi.
On se donne un rendez-vous pour jeudi prochain. Profitez de la belle journée douce. Au plaisir.